C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Bienvenue sur l'écho du silence, le podcast qui met en lumière les communautés invisibilisées du territoire breton. Cette émission est dédiée à la communauté des parents d'enfants en situation de handicap mental. Aujourd'hui, nous accueillons Michel et Jacques, deux papas d'enfants en situation de handicap mental, qui sont aussi membres fondateurs de l'ADAPEI 29. Ensuite, c'est Flavie qui va prendre la parole pour vous parler de cette association dans laquelle elle est en stage actuellement. L'ADAPEI 29, c'est l'association départementale d'associations de parents et d'amis de personnes handicapées mentaux du Finistère.
Donc, je m'appelle Michel Daniel, j'ai 78 ans, j'ai une fille handicapée mentale qui a maintenant 44 ans.
Et donc moi, c'est Jacques Aurel, hein, donc nous avons 4 enfants. Donc c'était l'aîné qui était handicapé, mais ça ne nous a pas empêché d'aller, d'en faire d'autres. Et puis comme Michel, on est dans les militants quasiment fondateurs de l'ADAPEI du Finistère, puisque moi je suis depuis 34 ans membre de l'ADAPEI du Finistère, et toi je pense à peu près autant.
Oh, non, un peu moins. Son handicap vient des suites d'une gastro-entérite alors qu'elle avait 1 an. Tout s'était passé normalement. Elle est hospitalisée une semaine à l'hôpital de Morlaix. Au bout de quelques jours, on nous dit que tout va bien. Et bon, on nous la rend le vendredi. Elle rentre à la maison. Le samedi, je trouve que ça colle pas trop. Elle est un peu sans réaction. Et puis, on téléphone au médecin qui nous dit je prends attache à l'hôpital. L'hôpital lui dit non, tout va bien. Donc il nous rend compte. Donc on accepte, c'est les médecins. Je suis pas médecin, donc on se dit ça va passer. Seulement dans la nuit du samedi au dimanche, ma femme entend un râle. Je vais voir, je dis j'ai compris. Je la prends, la voiture, direction les urgences. Et aux urgences, c'était évidemment au week-end, le soir, des internes qui sont en panique. Il s'appelle le chef de service. Malheureusement, pas en capacité de prendre en charge correctement ma fille parce que il était aussi handicapé. Il avait un problème physique, donc je voyais qu'il n'arrivait pas à faire de prise de sang. Là-dessus, moi, je demande à ce qu'elle soit transférée à Brest. Il ne voulait pas. À un moment, on me vire de la salle. Mais voyant que ça n'avançait pas, moi, je m'énerve un petit peu. Et je dis, écoutez, moi, je vais la prendre. Et du coup, donc, il appelle le SAMU et on va à Brest. Et à Brest, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, rien. Je viens de l'hôpital de Morlaix. En fait, elle faisait un coma. On appelle ça hypotonie. Et elle est prise en charge aux urgences de Brest, à Morvan. Et ma foi, dit bonjour de coma. Elle ressort de là. Et puis, au bout d'un moment, on nous dit, non plus. On a fait ce qu'on pouvait, on l'a sorti de là. Vous la reprenez. On recommence à zéro. Une chive molle. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, c'est le démarrage. Alors pour revenir sur le diagnostic, seulement à Morlaix ils avaient pris l'attention, on n'en serait pas là. Parce qu'en fait, elle faisait un syndrome urémique et hémolytique. Mais à l'époque, un bébé d'un an, c'est tout petit, il n'y avait pas de, comme à présent, pour prendre l'attention, c'était encore des bracelets. Et ou alors, il fallait faire c'était au mercure, c'était des colonnes au mercure. Et ils n'avaient pas. Donc, il n'y a qu'à Brest qu'ils ont découvert qu'en fait, elle faisait un syndrome urémique et hémolytique. Donc, c'est le rein qui s'y bloque. Donc un empoisonnement, après c'est le sang, et puis le coma, et puis après ça, la tension, elle avait 18 ou 20, ce qui correspond à une trentaine pour un adulte, explosé. Mais J'étais en colère par rapport au diagnostic, parce qu'en fait, ça n'aurait pas dû se passer.
Oui.
Bon, j'ai fait quelques démarches, mais à l'époque, on ne faisait pas. C'était pas judiciarisé comme maintenant, mais ne serait-ce qu'il y avait le pouvoir médical et le pouvoir administratif, et les deux, c'était compliqué. C'était l'époque où pouvoir médical était. C'était eux qui dirigeaient. Est-ce que ça va bien maintenant ? C'est plutôt l'administratif qui dirige, mais c'est peut-être pas meilleur, mais. Enfin bref, donc il n'y a pas eu de suite. J'ai eu un entretien 2 mois après avec la direction de l'hôpital, mais c'est tout. Voilà. Il a fallu faire avec, et on nous avait dit qu'elle ne marcherait pas, qu'elle parlerait pas, qu'elle ne verrait pas, parce qu'elle avait perdu la vue. Bon, depuis d'ailleurs, elle n'a plus qu'un œil qui travaille. Le deuxième, maintenant, a été diagnostiqué, et on lui a mis un implant avec le professeur Kochner à Brest, une entité connue sur la France entière. Elle est une des premières à avoir eu un implant FAC, on appelle ça. La professeure Kochner, que je remercie d'ailleurs, parce qu'elle me disait, mais vous savez, elle avait des lunettes épaisses comme ça, sans ces lunettes, elle ne voit pas ses pieds. Ah bon ? Je dis, c'est pas poserie, moi. Et depuis, elle ne porte pas de lunettes. Mais elle voit qu'elle n'a qu'un œil. Et elle parle, elle marche, elle a fait du vélo, bref.
C'est l'écho du silence. Écho du silence. Écho du silence. Écho du silence. Écho du silence.
Alors moi, c'est un peu différent. L'accouchement, la naissance a eu lieu normalement, aucune difficulté. Mais dès le début, j'ai la chance d'avoir une femme qui est biologiste et généticienne. Tout de suite, elle m'a dit, il y a un problème. Et donc, manque de dynamisme et tout. Mais elle m'a dit, tout de suite, il y a un problème. Donc, on va avoir des soucis avec cette petite, dès le départ. Donc, voilà, on est parti sur ça. Et puis, elle a grandi. Retard moteur. On voyait bien qu'elle était... en retard partout. Le pédiatre qu'on voyait à Brest nous a dit, oh, vous savez, bon, ça va venir. Bon, ma femme lui a dit, écoutez, bon, je suis biologiste, je sais bien que cette petite a une anomalie, laquelle je ne sais pas, mais il va falloir qu'on essaie de voir, d'en savoir plus, de manière à, comme tu dis, à avancer après, en essayant au maximum de l'avantager dans son handicap. Voilà. Et donc, jusqu'à 3 ans, elle était comme ça. Après, on est parti à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Hein, voir à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait le professeur Lejeune, qui est le découvreur de la trisomie 21, qui était donc le généticien dans le monde qui était reconnu pour ça. Et donc, j'ai passé 6 jours avec ma fille à l'hôpital Necker, faire des tas d'examens. Et puis, le constat, le bilan est tombé. Hein, intelligence moyenne normale, mais il faudra l'accompagner, l'aider dans le temps. Mais elle ne parlait pas. Elle ne prononçait que des... Elle ne pouvait pas prononcer des consonnes. Et donc la presse nous avait dit, bon, on ne comprend pas trop. À Necker, comme ils ont la vie des tout-petits, ils l'ont sculpté, ils lui ont dit, mais c'est normal qu'elle ne parle pas. Elle a le voile du palais qui est trop court, il n'arrive pas à fermer, elle ne peut pas expulser l'air. Elle a été opérée, le lendemain matin, elle parlait. Alors il a fallu faire de l'orthophonie après, bien sûr, hein, mais on a quand même perdu 2 ans avec un mauvais diagnostic au niveau de Brest qui n'avait pas, à l'époque, hein, maintenant vous savez, ça s'est drôlement développé, hein, la pédiatrie infantile, à l'époque c'était pas grave, parce que nous on vous parle de l'époque, moi c'est 1973.
Moi c'est 1982. Voilà.
Donc il faut resituer ça dans le contexte. Aujourd'hui il y a tellement un suivi prénatal d'abord et postnatal ensuite, que tous ces anomalies-là sont tout de suite détectées, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc, vous voyez, à 6 ans, en gros, on savait que notre fille, elle allait pouvoir évoluer dans le temps. Pour atteindre quel niveau, ça on ne savait pas, mais on a été fixé comme ça. Voilà le démarrage.
Après leur témoignage touchant, ils vont revenir sur le parcours scolaire de leurs enfants.
Ben, pour ma part, donc, je vous ai dit, c'est plus autour de la scolarité, parce qu'en fait, à l'époque, en IME, c'était, d'abord, elle a fait un parcours maternel, quand même, grâce à des connaissances. Parce que sinon, on ne l'aurait pas été, puisqu'il n'y avait pas d'aide. Et c'était à la bonne volonté des instituts ou des directrices. Bon, je connaissais bien la directrice. C'était ici à Saint-Martin-des-Champs, mais. Hein. Et la directrice avait accepté que notre fille soit en maternelle. Elle a fait une année de plus, même, au grand dam de certains parents, parce que certains parents n'appréciaient pas. D'autres, par contre, étaient charmants et nous accompagnaient et même nous aidaient. Et elle a même connu un gamin en maternelle qui prend toujours de ses nouvelles. C'était un gamin, alors on va dire HPI, qui avait tout de suite pigé, qui avait un problème, quoi. Il y a à l'école du Gouélou, là, il y a deux niveaux et il y a un toboggan. Et quand ma fille s'appelle Nolwenn, elle est en haut du toboggan, ce gamin arrêtait tout le monde pour que Nolwenn
puisse descendre
le toboggan sans qu'il y ait de gêne particulière. C'était adorable. Donc elle a eu un parcours compliqué après la maternelle. Il n'y avait pas de structure, donc hôpital de jour. Ça, c'était pour moi un enfermement sous clé. Enfin bref, alors qu'elle était handicapée mentale, elle était en psychiatrie en fin de compte. Donc il a fallu la sortir de là, donc pour aller en IME.
Un IME, c'est un institut médico-éducatif, un établissement qui accueille les enfants et les adolescents atteints de handicap.
Donc là, en IME, là, s'est retrouvé, mais pas de scolarité. Il y avait pourtant une instite, mais une instite, c'était une heure de temps en temps, ça servait pas à grand-chose. Donc il n'y a pas eu de scolarité, mais elle a eu quand même un apprentissage qui lui a permis de rentrer comme... ESAT. Donc elle a eu un parcours ESAT pendant 20 ans.
Un ESAT est un établissement ou un service d'accompagnement par le travail. Ça permet à une personne en situation de handicap d'exercer une activité pro tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.
Elle travaillait à l'imprimerie, donc elle se plaisait bien. Jusqu'à ce que la population change un petit peu. Elle change même beaucoup, puisque la loi, justement, on l'a rappelé, la loi de 2005, mais bon, a mis du temps à s'installer. Et maintenant, nos associations ont beaucoup d'handicapés psychiques qui peuvent avoir le bac, quelquefois, le bac plus 2, certains.
La loi du 11 février 2005 est faite pour l'égalité des droits et des chances, ainsi que la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, qui leur permet d'obtenir un aménagement de leurs besoins.
Le handicap mental, ils ont à la fois un retard intellectuel, mais un retard aussi d'autonomie, moteur aussi. Les handicapés psychiques, dès lors qu'ils prennent correctement leur traitement, ils n'ont aucun handicap.
Aucun handicap. Ils peuvent avoir fait des études, même supérieures. Venir en voiturette et tout ça. Donc ma fille, très loin de tout ça, à un moment, elle me dit, ils se foutent de moi. Je veux plus travailler. Donc elle a travaillé 20 ans. Et là, elle est maintenant dans une structure foyer de vie. Elle est restée en inadéquation, ce qu'on appelle en inadéquation pendant... Mmh. Elle ne travaillait plus, mais elle était maintenue dans l'établissement où elle était, en attente d'une place qu'elle a obtenue là, il y a 3 ans. Et elle commençait à, il était temps qu'on trouve cette place-là, parce qu'elle déprimait. Elle déprimait parce que le matin, ses collègues partaient au boulot. Et quelquefois, dans la journée, elle était toute seule à attendre qu'ils reviennent, quoi. Même si je ne blâme pas du tout les éduques et autres, essayer de l'occuper ou de l'envoyer faire des courses, ou envoyer une activité quelconque, aller avec eux en sortie ou autre. Mais tandis que là, à présent, donc, elle est pas loin, elle est à Kerosal, sur les hauteurs de Carantec, à côté du Fer de la Ronde. Et il y a une activité ferme.
C'est l'écho du silence. Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Donc, moi j'ai eu la chance, alors ma femme étant prof en même temps, c'est sûr que où elle était prof de lycée hein, en terminale, il y avait tout le cycle maternelle, primaire, collège et lycée. Donc en fait, elle est allée. En maternelle tout de suite, hein. Donc il n'y a pas eu de soucis particuliers. Elle a fait une scolarité, c'est vrai qu'avec ses frères et sœurs qui sont, enfin surtout ses frères, parce que la petite dernière elle est venue très tard après, mais ses frères qui avaient 3 ans de différence et 4 ans avec elle, la protégeaient beaucoup hein, en primaire. Hein, donc elle a fait un parcours... je dirais de primaire, finalement, pas si mauvais que ça. Hein. Et puis, après, elle est passée en commission départementale de l'enseignement spécialisé, parce que arrivée au CM2, on voyait qu'on atteignait les limites, quoi. Hein. Donc, elle est passée à la commission départementale de l'enseignement spécialisé, et on habitait à Paris à l'époque, hein. Et donc, on est arrivé à Brest, et à Brest, elle est allée à Charles de Foucault, qui venait d'ouvrir une section d'enseignement spécialisé pour les enfants de primaire qui avaient des difficultés à suivre le collège. Donc, elle a fait une 6e et 5e de section d'enseignement spécialisé. Elle a passé ce qu'on appelle toujours, d'ailleurs, le certificat de formation générale, ce qui équivalait au certificat d'études de notre temps. Ben oui. Et elle a eu 14 000 moyennes. Et voilà, après, elle sait lire, écrire et compter. Aujourd'hui, elle est comme toi. Elle travaille en ESAT, donc en établissement de soutien d'aide par le travail. Ça fait 30 ans qu'elle est en ESAT. Hein. Mais autrement, elle vit en colocation à Briec-de-Lodet. Donc, ils sont 3 colocataires, là, ils se font leur tambouille le soir, ils regardent la télé. Quand on compare dans notre association le nombre de. Enfin, les niveaux plus ou moins importants de handicap, moi je dis toujours, ma fille, il y a 30 ans, il y a 40 ans, elle aurait eu 20 ans il y a 40 ans, elle aurait été ouvrière, elle aurait été insérée dans le monde du travail. Aujourd'hui, ces gens-là sont exclus. Mais elle a son niveau de handicap. Dans les communes, avant, dit « Oh, lui, un tel, ça me plaît, là. Hein » Mais c'était des gens comme ça, qui avaient une intelligence normale, moyenne, moins, mais qui pouvaient s'intégrer dans le monde du travail à l'époque. Maintenant, ces gens-là, ils en sont exclus complètement. Et après, parce que c'est là, ils ont foyer de vie, mais ils vieillissent. Nos enfants, aujourd'hui... une bonne partie, en particulier ceux qui ont la trisomie 21, ils ne dépassaient pas 40 ans avant. Or, maintenant, ils vont jusqu'à 55, 60, 70 ans. Dans les ESAT, là, de Bourgeonnais d'Or, hein, on fait des départs en retraite à 55, 60 ans des travailleurs handicapés. Hein. Et il y a maintenant, c'est la 3e phase. Dans le monde normal, il y a les vieux, qu'il faut bien prendre en charge le plus longtemps possible. Mais dans le monde du handicap, il y a aussi les vieux hein, qui sont là et qui, eux, posent d'autres soucis de prise en charge, puisque un travailleur d'ESAT, le temps de travail, c'est limité à 55 ans. Hein, normalement, après 55 ans, ils sont réputés pouvoir être en retraite. Aujourd'hui, ceux qui le peuvent vont plus loin, vont jusqu'à même 60 maintenant. On a même des dérogations jusqu'à 65, hein, parce qu'ils disent quel est le devenir ensuite. Ben, les parents sont décédés, donc les associations n'ont pas toujours des structures pour le handicap vieillissant. Et donc aujourd'hui, c'est un problème pour toutes les familles. Que deviennent-ils ensuite ?
Écho du silence.
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 Alors, moi, elle le vit très mal. D'abord parce qu'elle a eu une scolarité à peu près normale jusqu'au collège. Donc c'est après qu'elle est arrivée assez tard en IME, nous, du coup. Hein. Elle a suivi une formation et comme elle a quand même des capacités, elle n'est pas rentrée en ESAT tout de suite. Elle est allée dans des entreprises de travail adapté, donc salariée normale. Elle a fait ça pendant 5 ans. Elle vivait en ville, elle avait son logement, mais il y avait une misère sociale. Nos enfants ont du mal à s'intégrer, et encore plus maintenant, hein, dans la société d'aujourd'hui, hein, parce que ils sentent bien qu'ils ne sont pas comme les autres, ou on leur fait sentir, de toute manière. Et elle, au bout de 5 ans, elle a pété un plomb, hein. On a cru qu'elle allait virer en psychiatrie, hein, donc elle a eu une réorientation pour être en ESAT, là. Et elle dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, il y a des handicapés avec moi, là. Mais moi, je ne suis pas handicapé, quoi. Et elle vit très mal, et même 20 ans après, elle vit toujours très mal sa situation de handicap. Elle n'en parle jamais, mais elle vit très mal sa situation de handicap. Très, très mal. À 53 ans, je sais qu'elle souffre toujours de cette situation de handicap. La question qu'on s'est posée après, c'est ses petits frères et sœurs, parce que toi, c'est la dernière, mais nous, c'était l'aîné. On s'est dit comment elle va réagir quand ses frères et sœurs vont prendre leur envol, vont devenir papa ou maman. Et bien là, par contre, ça s'est très bien passé.
Je pense qu'elle... Il n'y a pas une grande souffrance, mais quelquefois, quand même, elle est en colère... qu'on la reconnaisse pas comme une adulte, quoi, oui. Comme une adulte ordinaire. Mmh. Mais j'ai le droit, c'est pas normal. Quand il y a des injustices, des trucs comme ça, là, elle est... Elle peut s'énerver, elle peut trouver que c'est... Je répète, hein, c'est pas normal et qu'elle devrait être traitée comme tout le monde, quoi.
Maintenant que l'on se rend compte du chemin parcouru, on trouvait intéressant de leur demander quelles étaient leurs plus grandes fiertés.
On se pose pas comme ça. Quand on a un enfant handicapé, on fait ce qu'il faut faire.
Ouais.
On se pose pas la question de savoir qu'est-ce que... Voilà, on est là, il est là, il est là, il a rien demandé. Mmh. Hein, donc le tout, c'est qu'on arrive à faire le mieux possible et l'aider à devenir un adulte aussi, parce qu'il est peut-être handicapé, mais... Il a vocation de devenir un adulte et essayer de le faire au mieux possible. Après, ma foi, il y a des plus, il y a des moins. L'important, ce que tu dis, c'est que le point important, c'est que la fratrie est derrière. Et on sait que le jour où nous, on ne sera plus là, parce qu'on est tous mortels, on sait que nos enfants, nos autres enfants, ne l'abandonneront pas. Parce que le risque, c'est ça.
Plus que père d'enfants en situation de handicap, ce sont aussi des membres de l'ADAPEI 29. Ils vont désormais vous parler de l'association.
L'ADAPEI a été créée en 1966. C'est-à-dire que le mouvement du handicap mental, au départ, vous le voyez partout, c'est le réseau des associations des papillons blancs. Hein, ça a été créé en région parisienne et ça a essaimé dans tous les départements. Dans le Finistère, l'ADAPEI, au départ, était les papillons blancs du Finistère. Et puis après, comme il y avait plusieurs associations gestionnaires d'établissements, donc on s'est réunis, donc on a créé l'ADAPEI du Finistère officiellement en 72. Hein, donc depuis 72, l'ADAPEI du Finistère existe et elle, et elle fédère les différentes associations donc du handicap, Canard Mort, les Papillons Blancs, les Genêts d'Or. Donc c'est une association d'associations, dirons-nous. Hein. Mais bon, nous, c'est vrai que nous, elle nous a pas. C'est nous qui avons apporté plus à l'association et à sa vigueur. Nous, c'est vrai qu'elle nous a pas appris grand-chose. On a appris avec elle. Hein.
Bon, hein. Les jeunes, vous êtes consommateurs. Et vous changez facilement de. Un jour, je fais du basket, un jour, je fais du tennis, un jour, machin, et puis j'abandonne. Ça peut se comprendre. Hein. J'abandonne mon association parce que je vais dans une autre. Chez nous, c'est un peu la même chose. Une fois qu'on a eu sa place, son truc, ça ne me concerne plus. Je trouve tout sur Internet.
Or, aujourd'hui, dans les jeunes parents, ils se présentent comme étant les parents les plus déshérités du monde. C'est leur enfant. Et ils aimeraient bien avoir une association qui est adaptée à leur enfant. Ça, c'est pas possible. Hein. Et le département le dit bien. Il dit, moi, je veux bien faire des expériences, mais en aucun cas, on financera une association pour deux ou trois.
C'est bientôt la fin du témoignage de Michel et Jacques. Écoutons ce qu'il y a à retenir de leur intervention.
D'abord de ne pas considérer les handicapés comme des personnes à part, déjà. Et on a beau, malgré tous les discours qu'on peut dire aujourd'hui, on en est loin. Hein. Aussi de penser que dans les rues, c'est bien d'aider les gens, ou de se rendre compte qu'ils ont des difficultés, et d'avoir un peu d'empathie vers eux, parce que là encore, il y a du boulot à faire. Hein. Et puis, de les considérer comme des adultes hein, et des citoyens à part entière avec leurs qualités, leurs défauts. Et si on a déjà fait ça, on aura fait beaucoup, un grand pas pour tout
c'est
le monde.
Écho du silence. Écho du silence.
L'intervention de Michel et Jacques nous rappelle que le problème de crédibilité des personnes en situation de handicap mental est toujours actuel. C'est un des nombreux défis auxquels fait face l'ADAPEI 29. Et c'est maintenant Flavie qui va nous parler plus en détail de cette association.
Moi je m'appelle Flavie et du coup je suis étudiante en Master 2 à l'UBO, Master Intervention et Développement Social. Et du coup je suis en stage à l'ADAPEI 29, voilà, dans le cadre de mon Master. Alors l'association, donc l'ADAPEI 29 du coup c'est que pour le Finistère. Et en fait, c'est tenu par l'UNAPEI. Je ne sais pas si vous connaissez l'UNAPEI. En fait, c'est des associations de parents, sauf que celle du 29, elle a une particularité, c'est que c'est tenu vraiment que par des parents et ils n'ont pas d'établissement. Donc, ils n'ont pas de structure, ils ne gèrent pas. Enfin, ce n'est pas une association gestionnaire, comme on appelle dans le médico-social. Okay. Et du coup, là, c'est que des parents bénévoles, en fait, qui font des réunions, des projets, des lotos avec leurs enfants, enfin, voilà. Ils ont quand même des antennes. Donc à Quimper par exemple, donc c'est Monsieur Kilian qui gère l'antenne de Quimper, donc c'est lui qui va mettre en place des projets, voir avec les adhérents. Je crois que cette année ils doivent être entre 300 et 400, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est ça, adhérents. Ils sont plus ou moins investis, donc il y a des bénévoles qu'on va retrouver souvent et d'autres un peu moins. En fait il n'y a pas de salariés, il n'y a qu'une salariée, c'est la secrétaire de
la DAPI 29. C'est l'écho du silence. Écho du silence.
Un gros projet qui a été mis en place justement par Monsieur Kilian, c'est Apréparents. Le projet, c'est en gros trouver des solutions pour les parents qui vieillissent. Donc les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et en fait, à cause du vieillissement, en gros, qu'est-ce que les enfants vont devenir quand les parents vont mourir, quoi. Donc ça, c'est un des plus gros projets qui a été monté justement par l'antenne de Quimper. Donc ils ont été 2 ans en expérimentation. Et là, normalement, le département a dit qu'il voulait pérenniser le projet, donc sur tout le Finistère.
Maintenant que la structure de l'ADAPEI n'a plus de secret pour nous, Flavie va vous présenter les missions de l'association.
Donc il y a créer un réseau, on va dire, de parents, déjà, parce que les situations ne sont pas forcément faciles, donc ça permet aussi de discuter entre eux. Il y a aussi faire remonter en fait ce qui ne va pas dans les commissions, par exemple au département, à la MDPH, parce que du coup ils ont une place au CDAPH.
La MDPH, c'est la Maison Départementale des Personnes Handicapées. C'est un guichet d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil pour les personnes handicapées et leurs familles. La CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle évalue le handicap et attribue des droits et des prestations en fonction des profils.
Mais du coup, c'est ça en fait, aussi faire remonter les paroles des parents, accompagner, créer du lien. Bah, là, moi, en fait, mon stage du coup se concentre autour d'un projet qui s'appelle liste d'attente. Okay. Et en gros, c'est parce que dans le Finistère, on doit être à peu près à 1000 personnes qui n'ont pas de place dans des établissements médico-sociaux pour leurs enfants. Du coup, bah, les familles sont épuisées. Mmh. Et du coup, bah, c'est ça vraiment, moi, du coup, là, ma place pendant mon stage, c'est vraiment de travailler autour de cette problématique-là. Et du coup, on voit un épuisement des familles assez fort quand même. Et pas de réponse, en fait, pour les accompagner. Même ceux qui ont une place, parce qu'il y a l'amendement Creton, je ne sais pas si vous connaissez. L'amendement Creton, en fait, c'est par exemple un IME. À 20 ans, normalement, on doit sortir d'un IME, un enfant. Et en gros, l'amendement Creton, ça permet que même à 25 ans, tu peux rester dans l'IME. L'établissement n'a pas le droit de te virer, on va dire. Sauf que bah, c'est plus adapté pour eux, parce que bah, à 25 ans, les IME, c'est en gros éducatif. Du coup, c'est plus adapté pour eux. Et par exemple, bah, là, les problématiques, c'est que l'accompagnement, il y en a un, mais qui n'est pas adapté. Donc, ça ne permet pas à la personne de s'épanouir, de vivre correctement, quoi. Du coup, bah, ça, c'est vraiment des problématiques que je rencontre, moi, au quotidien. Parce que du coup, pendant mon stage, je fais beaucoup d'entretiens avec des familles qui sont, du coup, dans cette situation de liste d'attente. Bah, là, moi, mes entretiens, c'est vraiment comprendre leur vécu. Okay. Et qu'est-ce qu'eux attendent, en fait, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les aider, concrètement. Et du coup, le projet liste d'attente qu'on a avec l'ADAPI 29, ça serait de créer un réseau de soutien entre parents. Du coup, les adhérents en fait, de l'ADAPI 29 qui ont vécu cette situation de liste d'attente pourraient rentrer en contact du coup, avec des personnes qui ne font pas partie de l'association, mais qui sont dans cette situation de liste d'attente pour échanger sur leurs pratiques, le vécu. Ferait ça le projet. Et du coup, là, on travaille dessus. On a eu notre première réunion samedi dernier, donc avec les parents bénévoles de l'association qui veulent bien être parents contact, comme on les appelle. Et du coup, moi, c'est pour ça que je rencontre les familles qui ne font pas partie de l'association, qui sont en situation de liste d'attente, pour leur demander, en gros, eux, concrètement, bah, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quoi. Bah, c'est vrai que quand je sors des entretiens, suivant les entretiens, parce qu'il y en a plus ou moins... Il y a des situations plus ou moins compliquées, on va dire, même si elles sont toutes compliquées. Mais c'est vrai que parfois, je sortais des entretiens et... J'avais envie d'aller au département et de leur dire de bouger leur... Ben, voilà, quoi.
C'est révoltant.
Oui, voilà, ça, c'est très révoltant. Et tu te dis... En fait, j'aurais envie de leur dire au département bah, de venir rencontrer justement ces familles et de voir leur souffrance, en fait, face à face. Et là, si t'es humain et que t'as un cœur, tu peux pas rester en leur disant, bah, il y a pas de place, quoi. Le maximum que j'ai fait, c'était 3 par jour. Okay. Et souvent, j'en ai un le matin et un l'après. Okay. Parce que comme je dois me déplacer sur tout le Finistère...
Ah oui.
Je peux pas non plus enchaîner trop. Ouais. Souvent, j'arrive à en trouver sur Brest. Enfin, les premières demandes que j'ai faites, c'était au secteur de Brest. Okay. Mais il m'est arrivé d'aller à Quimper, d'aller, d'aller à Pont-l'Abbé. Donc, normalement, parce que du coup, quand j'ai envoyé ma demande, en fait, j'avais mis entre 45 minutes et 1 heure. En fait, les gens ont tellement besoin de parler que ça dure 2 heures et demie, 3 heures. Mmh. Et du coup, bah. C'est vrai que ça prend du temps, mais moi j'aime bien. Enfin, et c'est là où on sent que les gens ont juste besoin de parler aussi parfois. Genre, et ils sont contents que quelqu'un s'intéresse à eux en fait. Parce qu'au début j'avais peur de les déranger parce que bah, quand même ils ont autre chose à faire que de parler à une étudiante. Voilà quoi. Et non, à chaque fois ils sont super contents que quelqu'un les écoute. Ils disent bah, j'espère que la jeunesse va changer un peu, va bouger parce que bah, c'est quand même la problématique des listes d'attente et du manque de place. Enfin, ça date depuis des années quoi. Du coup, j'ai eu grâce au réseau ADAPI 29, donc ils ont pu envoyer à des gens qui connaissaient, qui avaient connu ça, dans le réseau, quoi. Et j'ai aussi, on a fait un partenariat avec l'association Les Jeunets d'Or. Et du coup, j'ai pu rencontrer la dame en charge du comité d'admission, qui, elle, en fait, a relayé aux personnes qui sont en liste d'attente dans leur association, du coup, un message que j'avais envoyé pour dire que s'ils voulaient bien me contacter, voilà. C'est comme ça souvent que ça marche.
Écho du silence. Écho du silence. Écho du silence. Écho du silence.
quand je parle aux parents justement de qu'est-ce qu'ils connaissent comme ressources et tout, bah, ils me parlent par exemple de la communauté 360, care aidant, c'est des trucs mis en place par les institutions, mais justement ça les saoule, hein, désolé, mais ça les saoule et ils veulent justement un truc plus institutionnel, genre plus... Je sais pas comment expliquer, plus... bah... ouais, ouais, oui, voilà, humain, discuter avec d'autres gens. Et c'est vrai que du coup, bah, je pense que quand même le projet qu'on est en train de monter avec la DAPI, liste d'attente, bah, ça répond quand même à ça, quoi. De pouvoir parler juste avec des parents qui ont vécu cette situation sans se dire qu'il y a une institution derrière, ou les démarches administratives, parce que c'est pareil, ils n'en peuvent plus. Ouais. Donc je pense que quand même, ça, c'est une bonne solution.
C'est bientôt la fin de cet épisode. Mais avant de nous quitter, Flavie va revenir sur ce qu'il y a à retenir.
En tant qu'étudiante et en ayant eu les entretiens avec les personnes et en voyant leur souffrance, bah déjà peut-être que ouais, enfin les gens se mettent ensemble en fait. Parce que c'est bien mignon de chacun créer des dispositifs à droite à gauche, mais au bout d'un moment, si on coopère pas tous ensemble, on fait pas un truc de société, parce qu'on est comme dans une société et on travaille pas la main dans la main, ça va pas marcher quoi. Moi je pense que ça peut s'améliorer, mais si tout le monde décide de... se bouger, quoi. Ouais. Et d'arrêter de dire « Non, mais c'est comme ça, il y a un cadre. » Faut sortir du cadre au bout d'un moment. Enfin, je suis désolée, mais... Parfois, dans le cadre de mon stage ou de ma formation, on a souvent affaire avec les institutions, le département, la MDPH, enfin, qui que ce soit. Et à chaque fois, c'est vrai qu'ils nous parlent de leur cadre, qu'ils sont soumis à des règles, ce qui est vrai, hein. Mais au bout d'un moment, si tout le monde réfléchit comme ça, c'est sûr que ça va pas avancer, quoi.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
C'est la fin de cette émission sur les parents d'enfants en situation d'handicap. Merci à Michel, Jacques et Flavie de nous avoir partagé leur parcours et leur savoir. Vous pouvez contacter l'ADAPEI 29 sur adapei29.fr. Retrouvez aussi tous les épisodes du podcast sur le site de Radio U et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était l'écho du silence.